6h39.
Bienvenue sur France Inter, nous sommes le jeudi 23 septembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Xavier Bertrand, une tête devant Valérie Pécresse chez les LR en vue de la présidentielle. Résultat de la grande consultation commandée par le parti, les militants choisissent le mode de désignation ce week-end. On en parle, Anaïs, dès le début du journal, après les autres titres.
L'ambassadeur de France va pouvoir retourner à Washington. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé hier pour un retour à la normale. Nous serons à Washington. En France, l'alerte du Sénat sur le budget de Météo France. Et puis, ça dérape fort sur les terrains et dans les tribunes de Ligue 1 de football. Encore une soirée d'incidents.
Les invités de France Inter à 7h50 avec vous donc, Yaël.
Il doit tous les jours déminer et défendre les choix d'un président pas encore candidat. Budget sincère ou pas ? Retraite, on fait ou on fait pas ? États-Unis, déjà le chaud après le froid. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Yaël. À 8h20, le grand entretien de la matinale sur les élections de dimanche en Allemagne. Trois invités donc, Marion Van Rentergem, journaliste, Hélène Miard de la Croix, historienne, et Daniel Cohn-Bendit, qu'on ne présente plus. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Qui sera le candidat de droite à la présidentielle ? Question toujours pas tranchée, mais les Républicains ont fait un grand pas hier en dévoilant le résultat de leur sondage commandé avant l'été. Méthode qui se veut innovante, 15 000 personnes proches de la droite consultées et décisives pour couper court à toute discussion. Et là, Anne Souhaitement, c'est moins évident, même si Xavier Bertrand semble le mieux placé.
Les Républicains auraient-ils trouvé leur candidat naturel ? À en croire la grande enquête confiée par le parti à l'IFOP, Xavier Bertrand serait le plus à même de gérer une crise, réformer le pays et gagner face à Emmanuel Macron. Devant Valérie Pécresse ou Michel Barnier, de quoi donner le sourire aux bertrandistes, dont le député Pierre-Henri Dumont.
Ce qui est sûr, c'est qu'il est en avance. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut réellement gagner cette élection présidentielle ? Dans ces cas-là, nous avons toutes les cartes en main pour l'emporter. Xavier Bertrand est le mieux placé pour l'emporter. Maintenant, le processus de rassemblement doit avoir lieu le plus rapidement possible.
Preuve qu'il est prêt à rassembler après des mois refusés la primaire, Xavier Bertrand ouvre désormais la porte à une participation à un congrès. On a plié le match, se régale l'un de ses plus proches. Faux, répond le clan Pécresse, Pierre Charron, sénateur LR.
C'était des sondages sur les qualités que doit avoir un candidat pour ce succès-là. Voilà, c'est tout.
Un léger agacement, car au-delà des sondages favorables à Xavier Bertrand, Valérie Pécresse a perdu une autre bataille hier soir. Exit l'option d'un congrès ouvert aux militants de partis amis, dont les centristes d'Hervé Morin, soutien de la candidate. Valérie Pécresse qui a immédiatement contre-attaqué, dévoilant dans la soirée les noms d'une trentaine d'orateurs nationaux. Faute de primaire organisée par le parti, nous allons organiser notre primaire dans les médias, prévient un proche.
Valérie Pécresse sur France 2 ce soir avec Léa Salamé et Thomas Soto. Les résultats du sondage, c'est sur franceinter.fr. Samedi, les militants LR décideront donc du mode de désignation congrès réservé aux militants ou primaire à deux tours. Eux ont une longueur d'avance puisqu'ils y sont déjà au deuxième tour. Les écologistes débattent hier soir sur LCI entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Le premier défend une écologie de gouvernement. La seconde attaque sur son programme pas assez radical. Vote décisif à partir de samedi.
Il est 7h04 et c'est la crise diplomatique qui monte.
Entre deux voisins et rivaux au Maghreb, l'Algérie vient d'interdire son espace aérien à tous les avions marocains. Le Sahara occidental, la normalisation entre le Maroc et Israël envenime les relations entre les deux pays qui ont rompu leur rapport diplomatique fin août. L'autre crise, celle des sous-marins, semble bien, elle, s'apaiser grâce à un coup de fil. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé hier au téléphone. Échange suffisant pour que l'ambassadeur de France rappelé à Paris retourne à Washington la semaine prochaine. Jean-Yves Le Drian et Anthony Blinken se verront aujourd'hui en tête-à-tête à New York. Hier, les deux présidents se sont promis de restaurer la confiance, ce qui n'émeut pas beaucoup outre-Atlantique à Washington. Sébastien Paour.
Des photos des deux présidents sur les écrans de télé et des articles en bas de page pour résumer le coup de téléphone d'hier. Pas grand-chose sur ce que le Washington Post appelle le désaccord sans précédent entre la France et les États-Unis. Le journal retient que les deux chefs d'État se verront le mois prochain en Europe. Pour le reste, le New York Times est plus acerbe, qui fait le parallèle entre la France d'Emmanuel Macron et celle du général de Gaulle. Deux présidents, selon lui, qui à deux époques différentes rêvent de voir la France en puissance mondiale, alors qu'elle ne peut pas en être une. Comment, interroge le journal, comment agir en puissance indépendante tout en dépendant de ses alliés? Le quotidien fait la même lecture du rappel à Paris de l'ambassadeur de France. L'Élysée montre qu'elle peut tenir tête à l'Amérique tout en attendant le soutien de ses partenaires européens. Sur CNN, le correspondant à Paris résume le communiqué commun d'hier et il termine son intervention. Le pic de la crise est passé et franchement, elle n'a pas coûté grand-chose aux Américains. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Les États-Unis qui autorisent à leur tour le rappel avec le vaccin Pfizer-BioNTech 6 mois après la seconde injection publique ciblée les plus de 65 ans ainsi que les personnes à risque. En France, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles primaires le 4 octobre. Dans les départements les moins touchés, la carte sur franceinter.fr, le pass sanitaire reste en vigueur partout. Le sommet sur le climat de Glasgow en octobre sera un tournant pour l'humanité. C'est Boris Johnson qui pèse ses mots à la tribune de l'ONU hier soir, appelant à la maturité et la sagesse pour agir contre le réchauffement. Et dans ce contexte, voilà que le Sénat s'alarme de la baisse du budget de Météo France, alors que les prévisions sont essentielles. Yann Gallic.
Météo France a perdu près de 600 postes au cours des 10 dernières années. Dans le même temps, l'organisme public a vu baisser de 20% la subvention que lui verse l'État. Le sénateur centriste de Seine-Saint-Denis, Vincent Capot-Canellas, est le rapporteur de la commission chargée d'évaluer le budget de Météo France.
Le nombre d'emplois qui sont autorisés pour Météo France a été réduit d'un quart. Le nombre d'antennes dans les territoires a été réduit des deux tiers. Il faut avoir conscience que, au bout de plus de 10 ans de baisse, on est à l'os.
Face au réchauffement climatique, il faut donner plus de moyens à Météo France pour anticiper les catastrophes naturelles, pour acheter notamment des supercalculateurs, ces ordinateurs géants très coûteux qui permettent d'établir les modèles de prévision.
Météo France a mis en service cette année 2 supercalculateurs, mais nous savons déjà qu'à l'horizon de 2025, ces supercalculateurs vont être dépassés. Nous allons vers des événements climatiques importants, difficiles à prévoir. Et donc il faut maintenir cet outil. On ne peut pas simplement dire il faut aller plus loin dans la prévision météo et puis ne pas donner les moyens en conséquence.
Selon le sénateur Vincent Capot-Canellas, Météo France aura besoin d'environ 300 millions d'euros à partir de 2025 pour renouveler son matériel et continuer à remplir sa mission d'alerte et de prévision.
Eux aussi veulent un plan d'urgence pour l'école, journée nationale de grève dans l'éducation nationale, à l'appel de 4 syndicats. C'est un geste symbolique en mémoire de Samuel Paty, cet enseignant assassiné par un islamiste il y a presque un an. Les presses universitaires lyonnaises publient le mémoire que l'alors jeune étudiant lyonnais avait rédigé. Le Noir, société symbolique 1815-1995, c'est son titre. Et se veut une réponse à l'obscurantisme, selon ses amis. Sonia Princé.
Samuel Paty avait 21 ans quand il commence à écrire ce mémoire sur la couleur noire et sa symbolique. C'est un mémoire de maîtrise, pas une thèse. Ce travail comporte forcément des imperfections, mais le choix a été fait de publier le texte tel quel pour montrer l'esprit d'analyse déjà du jeune étudiant. Nathalie Petitjean est responsable éditoriale des presses universitaires de Lyon.
Samuel Paty, c'était un jeune intellectuel qui était extrêmement cultivé, extrêmement brillant, qui ose affronter un sujet qui, à l'époque, n'est pas encore traité, parce que l'histoire des couleurs, maintenant, on la connaît bien grâce aux travaux de Michel Pastoureau. Mais à l'époque, Michel Pastoureau venait à peine de commencer ses recherches. Par là, c'est déjà un document d'époque sur la manière dont on pouvait faire un mémoire en 1995 qui est intéressant.
Ce mémoire permet aussi de mieux connaître la personnalité de Samuel Paty, comme le dit son ami Christophe Capuano, professeur d'université et à l'origine de ce projet de publication, mais l'évocation du noir, de la mort, résonne étrangement.
Il était intéressé par les questions existentielles que pouvait poser cette couleur. Pourquoi était-ce si important dans la société humaine, et en particulier dans les sociétés contemporaines? Pourquoi les sociétés se couvrent de noir en période de deuil? Pourquoi ce noir a une telle force symbolique? C'était pas du tout la morbidité, mais c'était une façon d'interroger l'existence et le sens de la vie.
Le petit livre à la couverture noire coûte 10 euros. Tout l'argent sera reversé à la famille proche de Samuel Paty.
Le mémoire universitaire de Samuel Paty publié à titre posthume, c'est à lire sur franceinter.fr. Condamner les prévenus, c'est aussi défendre la liberté d'expression. Les mots de la procureure hier au procès des 8 personnes poursuivies pour des tweets antisémites contre Miss Provence. 2 mois de prison avec sursis ont été requis.
Il est 7h09, mais compte-t-il donc depuis que le championnat de Ligue 1 a repris, Anaïs?
Oui, les supporters de football football, Nicolas, chaud bouillant dans les stades. On a déjà eu Nice, Lens et hier un festival matériel cassé par des Marseillais à Angers, supporters sur la pelouse à Metz. Et à Montpellier, le bus des Bordelais caillassé dans un guet-apens. 16 supporters girondins blessés, 6 à l'hôpital, ce qui a fait réagir les joueurs et le staff, Yann Planteil.
Oui, remonter de voir les incidents se multiplier, remonter de voir l'extra-sportif prendre le dessus sur le terrain. Le défenseur bordelais, Enoch Kouateng, était très agacé.
On était énervé parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est inadmissible et ça ne devrait jamais se passer. Et on aurait bien aimé gagner ce match, une sorte de vengeance pour nous aussi. C'est des choses qui ne doivent jamais se passer et une grosse force à nos supporters. Et voilà.
Pour l'attaquant montpelliérain, Valère Germain, si la Ligue avait sévi dès le départ, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui.
J'ai une bonne relation avec les supporters niçois et de Lens qui sont des supporters exceptionnels, mais quand on a envoyé comme ça un terrain, pour moi, il doit y avoir des sanctions beaucoup plus dures pour que ça évite de se reproduire. Si à Nice, il y avait eu 10 matchs, 15 matchs de huis clos, je suis pas sûr qu'à Lens, ils seraient tous rentrés sur le terrain.
Même si c'est une minorité de supporters, le coach bordelais Vladimir Petkovic s'inquiète pour l'image de la Ligue 1.
C'est dommage. C'est vraiment dommage pour le football français, d'autant plus que cela va sortir sur tous les journaux, dans l'Europe entière. Et là, il ne reste plus que souhaiter une prompte guérison aux personnes qui ont été blessées.
De leur côté, les ultras bordelais n'ont pas voulu jeter d'huile sur le feu, se refusant à tout commentaire. Seul le président des Girondins, Gérard Lopez, a réagi sur Twitter en disant que le foot qu'il n'aimait ne sera jamais celui-là, que la violence n'a rien à faire dans le sport. Le club va porter plainte aujourd'hui.
Yvan Planteil, France Bleu Gironde, au final 3-3 pour Montpellier-Marseille. Pour Montpellier-Bordeaux, nul, 0 partout entre Angers et Marseille. Le PSG s'est imposé dans la dernière seconde à la 94e minute à Metz, 2-1. Allez, Paris, plus propre pour les JO. La ville ambitionne de chasser les bouteilles plastiques. Plastique qui a fait son grand retour grâce au Covid. Alors pour l'éradiquer, bien rien de plus simple. Remplir sa gourde avec de l'eau potable. Encore faut-il en trouver. La ville va solliciter commerces et restaurants. Célia Kiré.
Dans un premier temps, l'opérateur public Hauts-de-Paris espère convaincre 500 commerçants d'ici le printemps prochain. Ils pourront distribuer de l'eau potable gratuitement. Tous les lieux seront répertoriés sur une carte et une application, précise le directeur Benjamin Gestin.
On a 1200 fontaines, c'est beaucoup, mais on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Et puis le jour où on a besoin d'eau, c'est pratique d'avoir un commerce qui vous accueille. Le but, c'est d'avoir un accès le plus large possible à l'eau potable pour tout le monde.
Hauts-de-Paris a bien conscience de l'effort demandé à certains commerçants, mais on n'a plus le choix, estime Laurent Mogui, patron d'un grand hôtel. Il en a assez de distribuer chaque année 400 000 bouteilles d'eau en plastique à ses clients. Il va installer des fontaines.
Ah non, on ne fera pas d'économie parce que d'abord il y a un investissement pour mettre en place les 20 fontaines nécessaires pour pouvoir distribuer l'eau courante dans les quatre coins, j'allais dire, de l'établissement. C'est un hôtel qui est énorme, à 50 000 m². C'est quelque chose qu'il va falloir nettoyer, entretenir. L'idée, c'est d'être à l'équilibre.
Or, chaque année, plus de 9 milliards de litres d'eau en bouteille sont consommés en France. Dan Lert est adjoint à Paris, il cite une étude de 2019.
Un Parisien sur deux consomme régulièrement ou occasionnellement de l'eau en bouteille et 3 touristes sur 4 font de même. Donc on a un enjeu de proposer l'eau gratuite avec un contenant réutilisable, une gourde.
Et c'est aussi une question d'image pour la capitale. À 3 ans des Jeux Olympiques, elle veut devenir la première ville sans bouteilles plastiques à usage unique.
Et l'expérience débute dans les 11e et 13e arrondissements de Paris.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes sur la boxe. La junte et les Guinéens.